Vous écoutez, on lit pour vous.
Les appels d'aide montent en flèche. Un texte de Lauriane Nunez-Pelletier, paru le 18 juillet 2025 dans la presse. Les membres de la communauté LGBTQ+, qui signalent être victimes de violences et de discrimination, sont beaucoup plus nombreux depuis un an, révèlent des données consultées par la presse. Les appels de personnes ayant été victimes de violences reçus par l'organisme Interligne, qui offre des services d'aide pour la communauté LGBTQ+, ont plus que doublé par rapport à 2024, révèle le rapport annuel. Ceux ayant pour motif la discrimination, les enjeux de classe et le racisme en lien avec l'orientation sexuelle ont pour leur part augmenté de 308%. En 2023-2024, Interligne, anciennement connu sous le nom de Gay Écoute, a reçu 60 appels concernant ce motif, contre 245 pour 2024-2025. Les appels concernant la violence sont passés de 134 à 282 pour la même période. Ces données concernent les violences perpétrées dans la sphère privée, mais aussi les violences verbales et physiques subies dans l'espace public, précise le directeur général de l'organisme, Pascal Vaillancourt. On ne parle pas seulement de 5 ou 6 appels supplémentaires. Sentiment de détresse. Le psychologue Jesse Bossé, spécialisé en santé mentale des personnes LGBTQ+, et des réalités trans, remarque aussi une augmentation de la haine anti-LGBT et anti-trans ressentie par ses clients. Il affirme que le sentiment de détresse chez les personnes LGBTQ+, augmente de façon graduelle depuis 2 ans, mais encore plus depuis les 6 derniers mois. Jesse Bossé affirme que le sentiment de peur est palpable pour ses clients et leurs proches et qu'il doit faire de l'intervention de crise chaque semaine depuis quelque temps. Selon Pascal Vaillancourt, la situation est pire depuis la pandémie. L'isolement et la prolifération des chambres d'écho en ligne ont été un terrain fertile pour la légitimation des propos haineux envers les membres de la communauté, ajoute-t-il. Interligne a reçu en tout près de 20 000 appels lors de l'année 2024-2025. Pascal Vaillancourt a lui-même reçu des insultes dans la rue cette année, et ce, pour la première fois de sa vie. J'ai une 40aine d'années derrière moi, et c'est la première fois qu'on m'a agressé verbalement. Sous le choc, son collègue, Samuel Desbiens, intervenant pour l'organisme Trans-Mauricie Centre du Québec, a lui aussi vécu une altercation en mai 2025. La seule chose que je me disais, c'était que son point allait partir, relate avec émotion M. Desbiens. Alors qu'il attendait son dîner dans un restaurant de Trois-Rivières, un homme âgé d'environ 30 ans l'a abordé à la vue de son chandail où le mot « trans » était inscrit. « Vous autres les trans, vous allez bientôt disparaître. Mark Carney et Donald Trump vont vous remettre à votre place dans le placard, puis c'est bien correct. Pas besoin de ça au Québec », s'est-il écrié. Précisons que le premier ministre Carney ne peut être associé aux politiques anti-trans qui ont cours actuellement aux États-Unis. Aucune personne dans l'établissement n'est intervenue. Seul le silence du choc régnait. Samuel Desbiens se souvient. Dans sa voix, il était agressif et parlait fort. Il était à 2 pouces de ma figure et ses poings étaient serrés. Sous le choc, l'intervenant a demandé à la serveuse de lui donner son repas afin qu'il puisse le manger dans son automobile. J'avais peur qu'il me suive à l'extérieur, ajoute-t-il. L'agresseur est demeuré dans le restaurant et a pu y finir son repas. Samuel Desbiens remarque que, dans le cadre de son travail, la peur est plus présente qu'avant auprès des gens qui sollicitent l'aide de l'organisme. Dans un groupe de soutien en ligne dont il fait partie, les témoignages où des personnes trans sont victimes de violences verbales se multiplient. Polarisation en ligne. Dans une vidéo partagée récemment sur les réseaux sociaux, l'influenceur Nabil Amraoui a révélé avoir lui aussi vécu une agression homophobe, cette fois-ci physique, dans le quartier gay à Montréal. Des individus l'auraient interpellé. C'est pas toi le Marocain gay qui fait des vidéos sur TikTok? Après avoir acquiescé, M. Amraoui dit s'être fait violemment frapper au visage. Il y a des situations comme ça qui arrivent encore aujourd'hui à Montréal et partout dans le monde. L'homophobie existe encore. La haine ne s'arrête pas et elle ne devrait pas t'arrêter toi non plus, conclut-il dans sa vidéo. Pourquoi cette hausse de la violence? Experts et gens de terrain sont plusieurs à partager le même constat. La tolérance envers la diversité sexuelle et la diversité de genre recule. Et c'est le sentiment de sécurité pour les personnes LGBTQ+, qui écope. Il y a beaucoup de visibilité donnée aux personnes qui sont critiques de certains droits pour les personnes trans et non-binaires, ce qui donne beaucoup d'espace à l'expression de commentaires en ligne décomplexés, qui relèvent presque du discours haineux, déplore le professeur à l'UQAM Martin Blais, titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité de genre. Il explique que lorsqu'on regarde les sondages au Québec comme à l'international, on peut constater un recul quant à l'attitude face à la diversité sexuelle ainsi qu'à l'appui à l'avancement des droits. Une étude publiée par l'organisme Gris Montréal en janvier dernier établissait que le sentiment de confort face à la diversité sexuelle chez les adolescents reculait pour la première fois depuis la création de cet organisme, il y a de cela 30 ans. Martin Blais précise toutefois que ce changement d'attitude reste le fait d'une minorité de la population. De notre côté, on sent surtout le recul sur les questions qui concernent les minorités et la diversité de genre, affirme-t-il. L'agitation en ligne se traduirait par des comportements plus agressifs envers cette population. Inégalité. Bien que l'agression, l'intimidation et le harcèlement soient déjà plus élevés chez les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre que dans la population générale, M. Blais affirme qu'elles le sont à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Selon Statistique Canada, les personnes issues de la diversité sexuelle sont deux fois plus susceptibles d'avoir vécu de l'intimidation et du harcèlement que leur père hétérosexuel. Chez les personnes issues de la diversité de genre, c'est trois fois plus que la population générale. Pour le psychologue Jesse Bossé, le besoin numéro un pour ces personnes, c'est de se sentir soutenus, de voir leurs proches et leurs institutions soutenir la diversité sexuelle et de genre comme un droit humain fondamental. C'était « Les appels d'aide montent en flèche », un texte de Lauriane Nunez-Pelletier, paru le 18 juillet 2025 dans la presse.
Emma Québec appelle aux dons, surtout de plasma. Un texte de Karine Desautels de la presse canadienne, paru le 9 juin 2025 dans la presse. Seuls 3 % des adultes donnent des produits sanguins au Québec et l'organisation qui gère l'approvisionnement a besoin que ce taux augmente, plus particulièrement à l'approche de l'été, qui est toujours une saison creuse en matière de dons. Les dons en produits sanguins, que ce soit le plasma, plaquettes ou sang, c'est important tout au long de l'année, mais on se rend compte que pendant la période de l'été, avec les vacances, il fait beau. Parfois, les gens oublient de prendre rendez-vous et d'aller faire leurs dons, explique Patrice Lavoie, le directeur des relations publiques et du rayonnement chez Emma Québec. Certes, plusieurs Québécois sont en vacances lors des semaines de la construction, mais le manque de dons se fait sentir tout au long de la période estivale, dit-il. On parle beaucoup de sang. C'est vraiment le type qui est le plus connu en matière de dons, mais de plus en plus, on se rend compte que le plasma, c'est vraiment là où on a des besoins encore plus criants, compte tenu de la demande mondiale, pas juste au Québec, soulève M. Lavoie. Le plasma contient des protéines qui, sous forme de médicaments, sont indispensables au traitement de nombreuses maladies. Par ailleurs, les donneurs de plasma peuvent donner chaque 6 jours comparativement aux 56 jours pour le sang pour les hommes, 84 jours pour les femmes. Alain Gauthier, ex-militaire qui a commencé à donner à l'âge de 18 ans, sait à quel point le plasma est un produit précieux. C'est ce qui a permis à son petit-fils, Oli, atteint de leucémie myéloïde aiguë, de rester en vie le temps qu'on trouve un donneur compatible de moelle osseuse. Heureusement, Oli est aujourd'hui en rémission. Quand ça vient nous toucher directement dans la famille, ça fait quelque chose, témoigne le grand-père. Ça nous touche directement au cœur, et c'est là qu'on réalise encore plus l'importance des dons de sang. M. Gauthier calcule avoir fait 168 dons au cours de sa vie. Il était un régulier des dons de sang et depuis quelques mois, il s'est aussi mis aux dons de plasma. C'est sûr que ça a servi et c'est pour ça que je vais continuer à donner tant que je peux, tant qu'ils ne m'arrêteront pas ou que je ne serai pas trop vieux. Présentement, je donne aux 2 semaines une plasmoplaquette, raconte-t-il. Assouplissement pour plus de dons. Emma Québec rappelle que chaque jour, 1000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des hôpitaux à travers le Québec. Au cours des dernières années, Emma Québec a mis en place certaines mesures pour encourager les dons. Depuis décembre 2023, l'organisme a levé l'interdiction de donner du sang pour les personnes ayant séjourné en France, au Royaume-Uni et en Europe de l'Ouest dans les années 1980 et 1990. Cette restriction était auparavant liée au critère de Creutzfeldt-Jakob, maladie de la vache folle. Emma Québec a aussi révisé son questionnaire pour que les questions qu'il comporte sur les comportements sexuels à risque incluent tout type d'orientation sexuelle confondue, ce qui a permis à une grande partie de la communauté homosexuelle de pouvoir donner, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les heures d'ouverture des centres de dons situés dans le Grand Montréal ont par ailleurs été prolongées récemment et déjà, Emma Québec note un bel engouement de la population pour ces plages horaires. De plus, un nouveau centre de dons devrait voir le jour en 2026 à Lévis et, à compter de 2027, la multinationale espagnole Grifols commencera à produire des médicaments dans une usine de fractionnement à Montréal, notamment des produits du plasma comme l'immunoglobuline intraveineuse. Il y a différentes stratégies, comme ça, qui vont voir le jour au cours des prochaines années, justement pour favoriser l'approvisionnement en plasma au Québec, indique M. Lavoie. Il précise qu'actuellement, le Québec répond à environ 35 % des besoins avec son propre plasma, le reste provenant surtout des États-Unis. Emma Québec vise à porter ce taux à 42 % en 2027. On est autosuffisant pour le sang, les plaquettes et pour d'autres types de produits, notamment le lait maternel. Mais pour ce qui est du plasma, il y a peu de pays dans le monde qui peuvent se targuer d'être autosuffisants, justement parce que les besoins sont vraiment en croissance partout dans le monde, explique M. Lavoie. Les États-Unis sont le seul pays qui a actuellement plus de plasma que ses besoins, dit-il. C'était « Emma Québec appelle aux dons, surtout de plasma », un texte de Karine Desautels de La Presse canadienne, paru le 9 juin 2025 dans La Presse.
Fierté commerciale et festive ou militante? Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 27 juillet 2025 dans le magazine Fugue. Dans les derniers mois, certaines organisations ont blâmé publiquement Fierté Montréal à plusieurs égards. Une impression de déjà-vu qui amène souvent les gens à prendre position. Pendant que certains claquent la porte ou organisent des festivals alternatifs, d'autres défilent et s'impliquent. Le sujet est polarisant au sein de la communauté, et cela ne date pas d'hier. En mai dernier, Radio-Canada rapportait qu'une dizaine d'organismes lesbo-queer ont claqué la porte du Festival Fierté Montréal, dénonçant des pratiques teintées de misogynie, de racisme, de sexisme et de capacitisme à l'interne. L'organisation, elle, se dit surprise et attristée tout en assurant qu'elle prend ses allégations au sérieux. Je me souviens qu'en 2018, le Réseau des lesbiennes du Québec et le Centre de solidarité lesbienne, qui compte parmi les organismes qui se sont détachés de Fierté Montréal cette année, avaient milité afin que les femmes de la diversité sexuelle ouvrent le défilé, et ce, à la suite de rencontres avec Fierté Montréal et la création d'un comité femmes. Il y avait eu des actions concrètes découlant de ce partenariat avec Fierté, mais les discussions avaient été teintées d'un certain manque d'écoute et d'un ton paternaliste qui donnait l'impression qu'on faisait partie plus d'une checklist que d'une transformation organisationnelle. D'où l'impression de déjà-vu que j'ai d'abord eue à la lecture des actualités récentes. Cela dit, l'administration de Fierté Montréal n'est plus la même et quelques jours avant que ces organismes claquent la porte de l'organisation, Fierté Montréal rappelait dans un communiqué être en train de finaliser le processus entamé en 2023 d'une refonte complète de sa gouvernance et l'évolution de son modèle d'affaires, consolidant ainsi son rôle clé dans l'écosystème des festivals et celui de la diversité et l'inclusion. À travers cette transformation majeure, l'organisation rappelait s'être dotée d'une structure inédite et inclusive, à l'image des communautés 2SLGBTQIA+, qu'elle célèbre et rend visible. La nouvelle structure de membership de Fierté Montréal a d'ailleurs été élaborée pour mieux refléter la diversité des parties prenantes, notamment du défilé et des journées communautaires. Le premier défilé de la fierté, à Montréal, en 1979 sur la rue Duluth, est d'abord une marche pour souligner les 10 ans des événements de Stonewall. Puis les défilés ont été des moyens de revendication sociale, que ce soit pour les droits, l'acceptation, la visibilité de nos communautés LGBTQ+. Mais après s'être émancipés, de l'illégalité à l'égalité et de l'égalité juridique à l'égalité sociale, que revendiquent nos communautés aujourd'hui? Les groupes communautaires travaillant avec des populations spécifiques vous le diront, le travail n'est pas terminé. Et pour certains, certaines des événements liés à l'actualité sociopolitique, économique, religieuse ou climatique devraient s'y annexer, ce que d'autres considèrent comme faire de l'ombre aux causes premières LGBTQIA+, pour ne pas dire les diluer. Cela dit, depuis plusieurs décennies déjà, certains reprochent aux organisations derrière le défilé de la fierté, de diversité à Fierté Montréal, le caractère commercial de la grande fête, parce que les grandes corporations et les syndicats ont embarqué et affichent plus que jamais leur ouverture au sein du défilé. Des condons aux banques, en passant par diverses entreprises de toutes dimensions, les syndicats, la police, sans oublier les élus de tous les paliers de gouvernement, surtout dans les années préélectorales, tous veulent être de cette grande fête qui célèbre nos couleurs dans les rues, pour montrer que socialement les LGBTQ+ sont plus visibles et acceptés. Pouvons-nous vraiment les blâmer d'exprimer leur soutien? N'est-ce pas ce que nous voulions? L'inclusion, l'égalité juridique, l'acceptation sociale? N'est-ce pas là le signe que nos sociétés ont évolué quant à l'acception des mœurs homosexuelles et des identités de genre? J'ose croire que oui. Et s'il faut évidemment souligner le travail qu'il reste à faire, décrier les injustices, il est aussi nécessaire de célébrer nos acquis. Mais si les célébrations et le défilé festif et commercial de Fierté Montréal, avec des milliers de participants, participantes, ne sont pas pour vous, il est toujours possible de joindre ou créer une version alternative. La Dyke March, qui se tient plus ou moins chaque année depuis environ 20 ans, a comme objectif de mettre de l'avant les femmes de la diversité sexuelle et leurs enjeux. Un moyen de parler à un groupe plus spécifique de la communauté et de lui permettre d'exprimer ses enjeux spécifiques et de descendre dans la rue, sans être noyé dans une mer de revendications LGBTQ+, de logos et de bannières commerciales. Bien sûr, ce genre d'activité n'a pas le même rayonnement médiatique que le défilé officiel, mais il réussit tout de même à faire parler de nous, une victoire en soi. La Dyke March, marche des Gouines de Montréal, se déroulait cette année le 1er juin dernier au parc La Haye et était organisée par Résistance Montréal. En 2007, l'organisme Diversité annonce qu'il cesse d'organiser le défilé de la fierté et la journée communautaire à Montréal pour se consacrer à un festival artistique et culturel. Avec un fort ancrage communautaire, Fierté Montréal est alors créée, avec la mission de reprendre le flambeau à la demande de toutes. Les deux événements majeurs ont coexisté pendant près de 8 ans. Ils ne se chevauchent pas, mais se suivaient. Certains festivals alternatifs ont aussi émergé en protestation, dont Perversité, dès 2006. De ses débuts protestataires, organisant courtes marches et événements, l'organisme a évolué au fil des ans vers l'activisme et la créativité queer émergente, à la manière d'un festival off-fierté. Cette organisation a été fondée en réponse aux besoins reconnus de résister à la corporatisation de la fierté et de favoriser un cadre anticapitaliste et anarchiste pour soutenir la production d'une culture queer non normative et renforcer les liens entre les communautés queer, déclaraient les organisateurs en 2018, 5 ans avant que ce festival, qui prenait ses assises chez les jeunes de la communauté anglophone montréalaise, ne cesse ses activités. En 2025, l'histoire semble vouloir se répéter. Un nouveau festival alternatif est annoncé. Wild Pride, fierté indomptable. Organisé par des groupes souhaitant une alternative, on annonce le retour d'un festival politique, communautaire et intergénérationnel. Les guillemets demeurent, car les aspects communautaires et intergénérationnels se retrouvent déjà au sein de la programmation de Fierté Montréal, même si ce n'est pas toujours très visible dans les reportages des médias grand public. Et l'aspect politique est véhiculé via les revendications de certains groupes communautaires. Néanmoins, comme le stipule Shannon Thompson, qui co-organise le Wild Pride avec Yara Koussa, l'idée c'est d'offrir le choix à la communauté LGBTQ+. Avoir le choix, c'est probablement le plus bel hommage à l'esprit de la communauté LGBTQIA2S+. Cependant, faire ce genre de choix amène une possible division qui peut affaiblir le mouvement. À l'instar de Fierté Montréal, Fierté Indomptable ne sera probablement pas à l'abri des critiques et des prises de position que seul le temps et les événements sociopolitiques sauront révéler. C'était Fierté commerciale et festive ou militante? Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 27 juillet 2025 dans le magazine Fugue.
Une envie de désert, un texte de Monique Durand, paru le 5 juillet 2025 dans Le Devoir. En cette époque de fracas et de désordre, notre collaboratrice ouvre des carnets portant sur l'idée de désert. Au gré de ses routes récentes, elle nous fait pénétrer dans des immensités de sable, de neige et de mer, antidote à l'agitation du temps. Avril 2025, au Sahara occidental, à l'extrémité sud du Maroc. Je suis assise au sommet d'une petite dune devant trois déserts, de sable, de mer et de ciel, fondus dans la substance du monde. J'avais besoin d'un désert, quelque chose de nu, de sobre, de lisse, presque ascétique, à perte de vue. Pour tout dire, j'avais besoin de me mettre à distance des mèches oranges, des gueules à tronçonneuses et des matamores à cravate ou à tailleur. M'abstraire un moment des drones, missiles et engins d'assaut. Envie d'autre chose que de l'esbroufe et de la guerre. D'un horizon sans irritant et sans fin. Envie de me promener crinière au vent, dans un long souffle du ciel que nul obstacle n'entrave. De me perdre sur une terre plane, sans aspérité silencieuse. Je suis venu au Sahara occidental que vient lécher l'Atlantique. J'y suis venu pour le désert où je rêvais de déserter. Pour une ville, Dakhla, construite au milieu des sables, dans un coin du monde qui revêt depuis peu une grande importance géopolitique. J'y suis venu aussi pour une huître. Oui, une huître du désert. Enfin, pour Saint-Exupéry, dans l'espoir de croiser son petit prince sur les dunes. Mais je reviendrai sur tout cela. Désert. Ce seul mot nous fait partir en songe. Depuis toujours, les déserts attirent, intriguent, mystifient. Qu'ils soient de sable ou de neige, les déserts sont habituellement associés au silence, à l'amplitude, à l'infini, au danger aussi. Le désert sert en quelque sorte de révélateur à l'être humain, en ceci qu'il l'oblige au dépouillement, à l'essentiel, et le débarrasse de tout ce qui encombre la vie, écrit Rachel Bouvet, professeur à l'UQAM. Un passage à vide qui entraîne parfois une renaissance, de nouvelles épousailles avec soi. Les trois religions du livre sont nées dans le désert. Est-ce un hasard? S'interroge l'écrivain Jean-Pierre Valentin, un habitué du Sahara. Le désert, c'est Dieu sans les hommes, écrivait Balzac. Les déserts de la géographie. Il y a toutes sortes de déserts. Ceux auxquels nous pensons plus spontanément sont en général de sable, les déserts chauds. Mais il y a aussi des déserts froids, de glace et de neige. Mais, au fait, qu'est-ce qu'un désert? Le Musée national d'histoire naturelle de Paris définit ainsi ses vastitudes, présentes sur tous les continents, qui représentent un tiers de la surface de la Terre. Des milieux ouverts, exposés à l'aridité et aux températures extrêmes. Pluies très rares, comme au Sahara, 20 mm d'eau par année, et au nord du Canada, 25 mm par année. Et des écarts de température considérables. Dans le désert d'Afrique du Nord, par exemple, il peut faire 50 degrés le jour et 0 degré la nuit. Le National Geographic précise que 20% seulement des déserts sont recouverts de sable. Et puis, vous pensez que le Sahara est le plus grand de la planète? Et non. Le plus grand est un désert froid, l'Antarctique, qui compte 14 millions de kilomètres carrés. Retour sur ma dune au pied des vagues.
Un chien sauvage, familier des lieux, inoffensif, me reluque. De mon promontoire aux confins de deux immensités de sable et d'eau saline, il me semble expérimenter un petit morceau de plénitude. Un moment d'être, écrivait Virginia Woolf. Parler du désert, c'est aussi parler de désertification. Certaines régions du monde se désertifient à un rythme affolant. Ce phénomène résulte principalement de la déforestation et des besoins quotidiens des populations. La cuisson et le chauffage avec des combustibles ligneux sont encore le lot de millions de personnes. Ce à quoi s'ajoutent les effets du réchauffement du climat. Le désert est en train d'avaler tout rond une partie du monde. Il y a quelques années, je m'étais intéressé à ce phénomène particulièrement sensible en Afrique. Je m'étais rendu dans trois pays que le Sahara ne cesse de grignoter. Au Mali, le fleuve Niger, principe vital du pays, se sédimente, son lit rétrécit. Au Sénégal, 20% des ressources végétales ont disparu depuis les années 1980, une véritable hécatombe. Au Maroc, on a détruit des milliers d'hectares de forêts pour se livrer à la culture maraîchère intensive, au cœur de laquelle se trouve la célèbre clémentine. Le Sahara lui-même s'est agrandi parce que le sud du Sahel est devenu plus sec et s'est transformé en désert. La perte des forêts naturelles, cruciale pour la biodiversité de la Terre, n'est pas qu'un phénomène tropical, mais touche aussi des régions boréales. Au Canada, 177 000 km² de ces forêts naturelles ont été décimés pour les seuls besoins des marchés américains et chinois en bois et en minerais, soit l'équivalent de près de 4 fois la superficie de la grande île de Montréal. Les déserts de l'intime. Il n'est pas que des déserts dans la géographie physique. Il en est de plus intérieur dans les géographies intimes. Désert affectif, absence de lien avec d'autres, quête frénétique de l'âme sœur dont le fourmillement des sites de rencontre témoigne. Et le désert affectif ne se vit pas que seul avec soi. Il est parfois plus souffrant à deux ou en groupe. En cette époque de communication tous azimuts, nos sociétés ressemblent de plus en plus à des déserts, écrit l'essayiste Michel Benoît. L'isolement social se répand, comme si nos solidarités s'ensablaient. Des études établissent un lien entre cet isolement et des problèmes de santé mentale, des risques accrus de déclin cognitif et même de mortalité. Désert de la maladie aussi. Seul à seul avec un soi dépouillé d'énergie, souffrant, parfois méconnaissable. Désert que suscitent les pathologies neurodégénératives affectant la mémoire et d'autres fonctions cognitives. « Je me sens devenir sotte », me dit un jour une résidente d'un CHSLD, autrefois enseignante avec du bagout. Son corps tenait, sa tête plus. Ses yeux pleuraient tout seuls, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis le désert du deuil, long, lent. Un seul être vous manque, écrit Lamartine, et tout est dépeuplé. Il y a tant d'autres déserts, celui des Afghanes, emmurés vivantes, captives des hommes et de leur société, à qui l'on a dénié le propre d'être une humaine, celui des prisons. Aux États-Unis, selon le magazine Slate, 120 000 détenus croupissent en isolement total 22 heures par jour, parfois pendant des années. De quoi devenir fou? Et puis, des spécialistes évoquent maintenant l'idée d'un désert de la pensée, avec l'avènement des technologies qui pensent et parlent à la place des humains. L'écrivain et philosophe Éric Sadin fera paraître à l'automne 2025 un ouvrage au titre éloquent « Le désert de nous-mêmes ». Toujours sur ma dune qu'effleure l'océan, comment pourrais-je venir en pareil lieu sans penser à Saint-Exupéry, le pilote du désert et l'écrivain du célébrissime Petit Prince? Ici, je ne possédais plus rien au monde, écrit-il dans Terre des Hommes. Je n'étais rien qu'un mortel égaré entre du sable et des étoiles, conscient de la seule douceur de respirer. Il y a des déserts qui donnent du souffle, élargissent le regard, nous amplifient. Me revient ce titre si beau du poète et diplomate libanais Salah Stettier, « Réfraction du désert et du désir ». Désir de quelque chose d'autre que recèleraient les immensités. Nous sommes nombreux à rechercher des étendues où la vue se perd, d'amples espaces où se reposer, souvent de nous-mêmes. Nombreux à appeler le grand air, le silence et la contemplation, la fréquentation des îles, des montagnes, des forêts, des lacs et des mers va en s'accroissant. La quête de lieux perdus, une plume de mouette ou une brindille entre les dents, nous aimante. Depuis nos tentes, nos yourtes, nos cabanes, on observe les aubes, éblouis. On veut cueillir des aurores boréales en janvier et de petites fraises des champs en juillet. Les pieds dans les joncs, la neige ou les feuilles mortes, on court dessous les nuages, on cherche, chacun, chacune, son désert, où, pendant quelques secondes, tout sera apaisé. C'était « Une envie de désert », un texte de Monique Durand, paru le 5 juillet 2025 dans Le Devoir.
Ces Canadiens-Français qui ont façonné les États-Unis. Un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 4 juillet 2025 dans La Presse. Les États-Unis ont souligné Independence Day. Profitons-en pour souligner l'apport des Canadiens-Français à l'identité américaine. Parce que oui, ils et elles ont en grand nombre apporté leur pierre à l'édifice de l'Oncle Sam. Une contribution qui est loin de se résumer à l'écrivain Jack Kerouac, souvent passé sous silence et, dans certains cas, complètement oublié. Voici quelques noms issus du monde militaire, politique, médiatique, sportif ou artistique. Camille Lessard-Bissonnette, 1883-1970. Chroniqueuse, écrivaine, militante, Camille Lessard-Bissonnette est une figure méconnue, mais intrigante. Originaire de la région de Mégantic, elle immigre avec ses parents à Lewiston, Maine, où elle travaille dans le textile. Dès 1910, dans les pages du journal franco-américain Le Messager, elle milite pour le droit de vote des femmes, ce qui en fait une pionnière du mouvement des suffragettes aux États-Unis, où le vote féminin ne sera permis qu'en 1920. 20 ans plus tard, elle publie le livre « Canuck », autofiction de son expérience de jeune femme immigrée franco-canadienne. Elle meurt à Los Angeles en 1970 après avoir coupé ses liens avec la culture franco-américaine de Nouvelle-Angleterre. Elle est reconnue pour avoir débattu avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elle quand elle n'avait que 25-26 ans, résume Patrick Lacroix, directeur des archives acadiennes à l'Université de Fort Kent, Maine, et auteur du livre « Tout nous serait possible », une histoire politique des Franco-Américains, 1874-1945. Elle prend la parole au nom des femmes et sa trajectoire est un peu hors de l'ordinaire. Elle a eu une présence féministe à une certaine époque, ce qui est quand même digne de mention. Un livre lui a été consacré en 1998. Camille Lessard-Bissonnette, The Quiet Evolution of French-Canadian Immigrants in New England. Louis Joliette, 1645-1700. Comment ignorer cet explorateur, passé à l'histoire comme le premier homme blanc, avec le prêtre jésuite Jacques Marquette, à avoir cartographié le fleuve Mississippi, des Grands Lacs jusqu'à sa jonction avec le fleuve Arkansas? Cette expédition, effectuée au nom du roi de France, ouvrira la route vers la Louisiane, où s'installeront de nombreux Canadiens français quelques années plus tard. Il existe deux villes appelées Joliette aux États-Unis. L'explorateur, originaire de la côte de Beaupré, fut aussi honoré par un timbre américain en 1968 et une plaque située à Chicago rappelle son passage déterminant dans la ville des vents. Pierre Lemoine d'Iberville, 1661-1707. Navigateur, corsaire, commerçant et explorateur né à Montréal, Pierre Lemoine d'Iberville est aux origines de la Louisiane que l'on connaît. Officier dans l'armée française, il va suivre la route tracée par Louis Joliette et fonder les villes de Mobile et Biloxi. Son frère, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, 1680-1767, va pour sa part fonder la ville de la Nouvelle-Orléans, d'où les nombreuses traces de présence francophone qu'on y trouve encore. Avec eux, c'est l'expansion de l'occupation du territoire par les Français et les Canadiens. Résume Luc Baronian, professeur de linguistique à l'Université du Québec à Chicoutimi. Leur nom est encore partout là-bas. C'est comme la noblesse. Toussaint Charbonneau, 1767-1843. En 1806, les Américains Lewis et Clark lancent une expédition pour découvrir l'Ouest américain. Ils se rendront à l'océan Pacifique, à la hauteur de ce qui est aujourd'hui l'Oregon. Leur équipée compte plusieurs Canadiens français, dont un certain Toussaint Charbonneau, né à Boucherville. Ce trappeur, un peu voyou, pour reprendre les mots de M. Baronian, est accompagné de sa femme, Sacagawea, une autochtone Shoshone, qui servira d'interprète tout au long du voyage. Le personnage de Toussaint apparaîtra aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le film The Revenant. Mais c'est son fils, Jean-Baptiste, 1805-1866, que retient l'histoire américaine. Sa mère, Sacagawea, est aujourd'hui un emblème du fait autochtone aux États-Unis et apparaît avec bébé JB sur les pièces américaines d'un dollar de collection. Il a eu une vie assez intéressante, souligne Luc Baronian. Il a fait la guerre entre les États-Unis et le Mexique. Il a été maire d'une petite ville. On peut dire qu'il est vraiment lié au début des États-Unis. Eva Tanguay, 1878-1947. On la surnommait la reine du vaudeville et son influence sur le divertissement aux États-Unis a été bien réelle. Originaire de Marbleton, en Estrie, Eva Tanguay va grandir dans le Massachusetts. Très tôt, elle démontre des aptitudes pour le spectacle émigre à Broadway, où elle développe sa personnalité cynique de femme libre et insouciante. Modèle d'émancipation au féminin, elle devient une businesswoman avisée et l'une des artistes les mieux payées de l'époque, se produisant sur toutes les scènes du pays, ainsi qu'avec les mythiques Ziegfeld Follies. Hélas, elle perdra toute sa fortune, 36 millions en argent d'aujourd'hui, lors du krach boursier de 1929. Elle enregistrera quelques chansons et tournera dans deux films, mais semble être passée à côté d'une carrière hollywoodienne. Elle terminera tout de même ses jours à Hollywood, où elle est enterrée. Prudent Baudry, 1819-1893. Né à Mascouche, l'entrepreneur Prudent Baudry fait fortune grâce à l'import-export. Attiré en Californie par la ruée vers l'or des années 1850, il devient maire de Los Angeles de 1874 à 1876, à la même époque où son frère Jean-Louis est maire de Montréal. Doté d'un redoutable instinct immobilier, Prudent achète à vil prix et met en valeur les zones non construites qui surplombent le centre-ville de LA, Bunker Hill et Angelino Heights. Il est entendu qu'il a été en partie responsable de l'essor de la ville, ce qui lui vaut d'ailleurs d'y avoir une rue à son nom. Ça n'empêchera pas d'être enterré à Montréal, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. À noter qu'un autre Canadien français, Damien Marchessault, fut maire de Los Angeles entre 1859 et 1865. Ce gambler notoire se donnera la mort à l'âge de 49 ans. Ferdinand Gagnon, 1849-1886. Entre 1850 et 1930, environ 900 000 Canadiens français vont émigrer aux États-Unis pour des raisons économiques. Personne ne les protégera mieux que le journaliste Ferdinand Gagnon, fondateur du journal Le Travailleur. Lorsqu'il se rend compte que leur rapatriement au Québec, souhaité par le gouvernement provincial, ne tient pas ses promesses, il plaide pour leur naturalisation et leur intégration à la société américaine. Je pense que c'est une figure importante parce qu'il aide à construire une conscience politique américaine chez les franco-américains, explique Patrick Lacroix, directeur des archives acadiennes à l'Université de Fort Kent, dans le Maine, et auteur du livre « Tout nous serait possible ». Il participe vraiment à l'intégration d'une communauté ethnique aux États-Unis, sans concession sur le plan culturel. Ferdinand Gagnon va mourir jeune, à l'âge de 37 ans. Nap Lajoie, 1874-1959. Un athlète, et pas n'importe lequel, puisque Nap Lajoie est décrit comme la première superstar du baseball. Ce héros ancien n'est certes pas né au Québec, mais ses parents étaient d'authentiques immigrants canadiens-français venus chercher fortune aux États-Unis. Dans le milieu, on le surnommait « The Frenchman » et il a tout balayé à son passage chez les pros 1896-1916. C'était un des meilleurs joueurs des 50 premières années du baseball professionnel, rappelle le collègue Alexandre Pratt. Il était très grand pour l'époque, ce qui ajoutait à son mythe. Il excellait au bâton, en défense et sur les sentiers. En plus, il avait une personnalité charismatique. Franchement, il avait tout pour lui. Tellement bon, ajoute-t-il, qu'une équipe a même porté son nom. Notre chroniqueur fait bien sûr référence aux Naps de Cleveland, pour lesquels la joie va évoluer de 1902 à 1914 comme joueur et comme entraîneur. C'était ces Canadiens-Français qui ont façonné les États-Unis. Un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 4 juillet 2025 dans La Presse.
Puisque c'est la guerre, fonçons. Une chronique de José Boileau, parue le 11 juin 2025 dans L'Actualité. Dans le dernier « Mission impossible », le plus invraisemblable ne réside pas dans les périlleuses aventures d'Ethan Hunt, mais dans le contraste entre une présidence américaine fictive et celle de la réalité sur fond de militarisation des esprits. Récemment, j'étais au cinéma pour voir « Mission impossible, bilan final », qui s'ouvre par un message souriant de Tom Cruise nous remerciant de visionner son film sur grand écran. De fait, ce n'est qu'ainsi qu'on peut vraiment apprécier les incroyables cascades auxquelles l'acteur se livre. Mais j'ai aussi savouré le jeu de la comédienne Angela Bassett, qui prête ses nobles traits à la présidente Erika Sloan. Celle-ci a des décisions fondamentales à prendre. L'heure est grave, le moment est solennel, et Sloan soupèse avec soin les arguments des membres de son équipe. Je n'ai pu m'empêcher de remplacer Sloan par Donald Trump. Aussitôt incapable de lui prêter la gravitas requise pour manœuvrer en eau trouble. La gravitas, c'est d'avoir le sens profond de ses responsabilités que l'on exerce avec retenue et rigueur morale. Les Romains y voyaient la quintessence de la vertu chez un dirigeant. Prise par ma comparaison, je me suis dit que, en fait, je pouvais glisser tous les présidents américains que j'ai vus à l'œuvre dans la peau d'Erika Sloan. Mais Trump? Non. Absolument pas. L'ironie, c'est qu'en sortant du cinéma, on apprenait que M. Trump avait décidé de déployer 2000 militaires de la garde nationale à Los Angeles afin de mettre un terme aux manifestations en cours contre l'arrestation brutale de sans-papiers. De toute évidence, aucun soupçon de gravitas ne s'est glissé dans cette prise de décision. Les règles de gouvernance constitutionnelle américaine n'ont même pas été respectées. Donald Trump a agi sans que le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, démocrate, l'ait demandé et en dehors de toute situation d'urgence puisque la police locale faisait le travail. La mairesse de Los Angeles, Karen Bass, a d'ailleurs dénoncé l'escalade des tensions que nourrit le président. Or, celui-ci en a remis, envoyant depuis sur le terrain des milliers d'autres membres de la garde nationale et même du corps des Marines. Tout cela semble bien loin de nous. Pourtant, ce réflexe militaire est dans l'air du temps. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, ne vient-il pas de presser le pas pour respecter l'objectif de dépenses militaires de 2% du PIB fixé par l'OTAN à ses membres? En campagne électorale, M. Carney visait 2030 pour atteindre cette cible. Justin Trudeau, son prédécesseur, évoquait 2032. Mais lundi, le nouveau premier ministre libéral a annoncé que ce 2% serait au rendez-vous en cette année fiscale. Un pas énorme, puisqu'en 2024, les dépenses militaires canadiennes représentaient 1,45% du PIB. Mais le monde a changé, comme l'a expliqué M. Carney en conférence de presse. La prédominance américaine, qui nous a longtemps protégés, est maintenant chose du passé, a-t-il dit. Bien des experts se sont montrés d'accord avec cette analyse, d'autant que Donald Trump pousse sur l'OTAN pour qu'elle hausse sa cible à 5%, ce que le secrétaire général de l'organisation soutient aussi. La démonstration est ainsi faite. Dans cet univers belliqueux, le Canada traîne la patte et il est plus que temps de rectifier le tir. D'ailleurs, tant les conservateurs que les bloquistes approuvent l'atteinte rapide de la cible de 2% fixée par le premier ministre libéral. Mais peut-on s'arrêter au fait que l'on parle de 9 milliards de dollars soudainement trouvés pour la défense, alors que le déficit du gouvernement fédéral atteint des sommets? Quels programmes souffriront de cet engagement imprévu? Avec quelles conséquences? L'aide internationale, elle, ne fait pas l'objet de la même obsession. Pourtant, elle est devenue encore plus cruciale depuis que les États-Unis de Donald Trump se sont retirés du secteur. En décembre dernier, le professeur Jean Lebel, spécialiste du développement international, dressait déjà un sévère bilan de la contribution canadienne. Depuis 2013, elle est en constant déclin, en deçà de la moyenne des 29 pays membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE, écrivait-il sur le site du Conseil des relations internationales de Montréal. Cette aide atteignait minimalement 0,5% de notre PIB de 1975 à 1988. Elle représente maintenant tout juste 0,3%, toujours plus loin de la cible de 0,7% fixée par l'ONU en 1969, et que des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et les pays scandinaves ont réussi à respecter. Mais on n'en parlera pas, puisque l'époque a « la guerre » comme mot-clé. Tarifaire, sécuritaire, militaire, culturel. Toute considération autre est donc renvoyée à un excès de naïveté. Il vaut quand même la peine d'avoir en tête l'analyse de l'historien Yuval Noah Harari, auteur des formidables ouvrages « Sapiens »,« Homo Deus » et « Nexus ». Dans un texte paru dans le Financial Times et repris par le magazine français « L'Express » en avril, il dénonce le monde du président Trump dans lequel, citation, « Les faibles doivent se plier aux exigences des forts. » Fin de citation. Cette approche, dit-il, a des conséquences qui dépassent les États-Unis, notamment parce qu'elle met sur les autres, citation, « une pression énorme pour se renforcer sur le plan militaire, ce qui signifie un détournement des financements du développement économique et des programmes sociaux vers la défense. » Fin de citation. Et c'est un piège tant pour la prospérité que pour la sécurité de chacun, écrit-il. Je vois Erika Sloan, Angela Bassett plisser les yeux et se recueillir pour analyser sérieusement ce constat. De l'autre côté de l'écran, je vois les dirigeants occidentaux, M. Carney dans le lot, se casser la tête pour plaire au président américain en nous faisant croire qu'ils agissent en toute autonomie. Un récent article de la presse canadienne portait pourtant un titre bien prosaïque. « L'ambassadeur américain a le budget canadien de la défense à l'œil. » Il est paru avant l'annonce de lundi sur la cible de 2%. Alors je préfère la fiction. On y a au moins encore le sens de la gravitas. C'était « Puisque c'est la guerre, fonçons », une chronique de José Boileau, parue le 11 juin 2025 dans « L'actualité ».